23h en temps universel, 1h du matin ici à Paris et 7h à Pékin. Et le journal est présenté par Théo Renaudon. Bonsoir Théo.
Bonsoir Sylvie. Un otage américano-israélien libéré par le Hamas, 19 mois en captivité dans la bande de Gaza. Ce soldat d'élite de l'armée israélienne a été enlevé le 7 octobre 2023. Libération négociée directement avec les États-Unis. Après 40 ans de guerre, ils annoncent déposer leurs armes. Le PKK, parti nationaliste kurde de Turquie, déclare sa dissolution dans sa forme actuelle. Résultat d'intenses négociations qui sont loin d'être terminées, nous le verrons. Et puis à partir de quand peut-on décider de mourir quand on est gravement malade? C'est l'une des nombreuses questions posées dans un débat sur la fin de vie, débat qui a débuté aujourd'hui au Parlement français. Après plus de 19 mois de captivité à Gaza, l'otage israélo-américain Edan Alexander a été libéré par le Hamas. Libération obtenue après de longues négociations en coulisses menées par les émissaires américains dans la région. Mais pour le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, pas question de ne pas en tirer profit. Pour le premier ministre israélien, c'est la pression de la Maison-Blanche conjuguée à l'offensive militaire israélienne qui a permis cette libération. Le Premier ministre israélien s'exprimait tout à l'heure pour saluer cette libération tout en promettant la poursuite des bombardements à Gaza, Abla Jounaïdi.
Cela fait des semaines que Washington négocie directement avec le groupe palestinien en vue d'une trêve à Gaza. Avant peut-être de rencontrer le président américain à Doha mercredi, si son état de santé le permet, l'ex-otage Edan Alexander a vu ce lundi sa famille, mais aussi les émissaires de Donald Trump, Steve Witkoff et Adam Boller. Mais pas Benjamin Netanyahou. Malgré tout, le premier ministre israélien s'est empressé de mettre en ligne une vidéo ce lundi soir pour saluer cette libération.
C'est un moment très émouvant. Edan Alexander est rentré à la maison. Nous l'embrassons et nous embrassons sa famille. Cela a été rendu possible grâce à notre pression militaire et grâce à la pression politique exercée par le président Trump. C'est une combinaison gagnante. J'ai parlé aujourd'hui avec le président Trump. Il m'a dit « Je suis engagé envers Israël. Je m'engage à continuer à travailler étroitement avec vous pour atteindre tous nos objectifs de guerre, libérer tous les otages et vaincre le Hamas. Ces choses vont de pair. Elles sont interconnectées. »
Une manière de recueillir les lauriers de cette libération et de justifier aussi sa politique. Tout à sa volonté de poursuivre à tout prix son offensive, Benjamin Netanyahou, recherché par la justice internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, a rappelé ce lundi qu'il n'envisageait aucune pause militaire à Gaza.
Eux dénoncent dans une tribune le silence du monde, de la culture face au génocide à Gaza. Fin de citation. De nombreuses stars mondiales du cinéma, dont Pedro Almodovar ou Richard Gere, signent donc cette tribune publiée dans le journal français Libération à l'occasion de l'ouverture du festival de Cannes. La possible rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine aura-t-elle droit à un invité surprise? Invité de taille, Donald Trump envisage de se rendre à Istanbul pour participer à ces discussions. Pour rappel, le président ukrainien Volodymyr Zelensky attend de pied ferme son homologue russe Vladimir Poutine pour négocier la fin de la guerre. Moscou s'est refusé pour le moment à dévoiler la composition de sa délégation. Ils sont propriétaires de salons de beauté ou assistantes de laboratoires si bulgares condamnés par la justice britannique pour espionnage au profit de la Russie. Leurs actions allaient de la simple surveillance au projet d'enlèvement carrément. Ils visaient des dissidents du pouvoir russe ou des journalistes au Royaume-Uni. Les peines vont de 5 à plus de 10 ans de prison. Le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, dépose les armes et annonce sa dissolution dans sa forme actuelle. Décision historique qui met fin à 4 décennies de lutte armée contre l'État turc. Dans un communiqué, le PKK déclare avoir accompli sa mission historique. Pour Ahmet İnsel, politologue spécialiste de la Turquie, la balle pour une résolution pacifique du conflit est désormais dans le camp du président Erdogan. À commencer par la libération des prisonniers kurdes.
Ce que doit faire aussi le gouvernement turc, du moment où PKK n'est plus une organisation qui mène la lutte armée et que la Turquie et beaucoup de pays définit le PKK comme une organisation terroriste, ce label « organisation terroriste » n'a plus lieu d'être. Et par conséquent, des dizaines de milliers de personnes qui sont en prison en Turquie pour des accusations d'être en lien avec une organisation terroriste, les anciens dirigeants du parti pro-kurde légal, démocratique, qui est présent au Parlement avec des députés, doivent être tous libérés puisqu'il n'y a plus de raison d'être. Cette appellation « être en lien avec une organisation terroriste » tombe à l'eau. Et ça, c'est un phénomène que le gouvernement turc doit très rapidement, avec une réforme de la justice, etc., mettre en œuvre pour rendre crédible le processus. Sans cela, nous sommes devant une situation qui devient totalement incompréhensible.
Propos recueillis par Lila Olkinuora. Le ministère de l'Intérieur libyen appelle les habitants de Tripoli, la capitale, à rester confinés chez eux. De violents affrontements entre groupes armés rivaux ont lieu. Un chef influent de milice est mort. Depuis la chute de Muammar Kadhafi, le pays est plongé dans la guerre civile. La Libye est gouvernée à Tripoli par un gouvernement reconnu par l'ONU et par la famille Haftar à l'est du pays. Le billet vert voit vert. Le dollar en nette hausse ce lundi, plus 1,5% par rapport à l'euro à Wall Street. Le Dow Jones a avancé de 3 points, plus 4 points pour le Nasdaq, résultat d'une pause annoncée dans la guerre des taxes entre Chine et États-Unis. Les droits de douane imposés par les États-Unis sur les produits chinois passeront de 145% à 30% seulement d'ici mercredi. Pour l'économiste Thomas Jeblin, c'est une bonne nouvelle, notamment pour les Européens qui continuent de négocier avec les États-Unis pour abaisser leurs propres droits de douane.
C'est une bonne nouvelle à trois titres. D'une part, parce qu'il y a une désescalade. Et donc ça, c'est pour les marchés mondiaux, pour les investisseurs mondiaux, c'est quand même une bonne nouvelle. Le deuxième point, c'est que en effet, ça montre que les États-Unis et Donald Trump sont prêts à négocier. Donc les Européens qui essayent de baisser les droits de douane qui leur sont appliqués peuvent espérer aussi une voie de sortie. Et enfin, troisième bonne nouvelle potentiellement pour les Européens, c'est que du fait des droits de douane très importants qui avaient été imposés par les États-Unis sur la Chine, ça risquait de conduire à des exportations encore plus importantes vers l'Europe. Et là, ça pourrait réduire un peu la pression sur l'Europe.
L'économiste Thomas Jeblin au micro de Anne Verdaghi. C'est une question sociale sensible. L'euthanasie en fin de vie. En France, le Parlement commence à débattre sur deux propositions de loi. La première prévoit le développement de soins antidouleurs avant le décès, les soins palliatifs. C'est la seconde proposition sur l'aide à mourir qui divise les parlementaires. Elle prévoit l'entrée en vigueur du suicide assisté pour les personnes souffrant d'une maladie incurable. Ils pourront choisir de s'administrer ou de se faire administrer un produit pour les tuer. Les oppositions à cette proposition de loi vont bien au-delà de l'hémicycle. Ce lundi, des centaines de personnes se sont réunies à Paris pour marquer leur opposition au texte. Tanita Fallet.
À quelques pas de l'Assemblée nationale où sont débattus les textes, environ 200 personnes sont allongées par terre en blouse d'hôpital. Ils tiennent des pancartes, on veut des soins, pas l'euthanasie. Apolline, son bébé dans les bras, les observe attentivement. Elle est infirmière et s'oppose formellement à l'aide à mourir.
On entend cette expression d'avoir envie d'en finir, de vouloir mettre un terme à la souffrance. Mais on n'y répond pas, en tout cas par la mort, quelle que soit la forme qu'on lui donne.
Pour elle, la solution, ce sont les soins palliatifs. Ils permettent d'accompagner des personnes jusqu'à leur mort naturelle. Christine est du même avis.
Eh bien, si on décide qu'on répond à la souffrance par la mort, c'est une façon de la société de se désengager de l'accompagnement.
Le suicide assisté ou l'euthanasie, ça ne peut pas être un choix selon elle.
Quelle est la liberté en fait de celui qui souffre terriblement dans ces conditions-là? Est-ce qu'il est vraiment libre de demander la mort?
La réponse est non pour l'Alliance Vita, une association pro-vie à l'origine de la manifestation. Tuc Dual-Derville en est le porte-parole.
Il s'agit d'un choix de société, de mettre les plus fragiles au cœur de la société et de leur apporter toujours protection et soulagement.
Il espère donc que seul le texte sur les soins palliatifs sera adopté. L'Assemblée nationale doit voter le 27 mai.
Un reportage de Tanita Fallet. C'est la fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve dans 50 minutes. Mais en attendant, je vous laisse avec Caroline Paré pour Autour de la question.